Erckmann-Chatrian, Le trésor du vieux seigneur, conte fantastique, première partie. Une nuit du mois de septembre 1828, le digne et respectable libraire Furbach, de la rue Neuhäuser à Munich, s'éveilla tout étonné d'entendre marcher dans la mansarde au-dessus de sa chambre. On allait, on venait, on se lamentait. Une des lucarnes en tabatière de la mansarde s'ouvrit et de longs soupirs s'exhalèrent dans le silence. En ce moment, la chapelle des Jésuites sonnait une heure et sous la chambre de M. Furbach, les chevaux piétinaient dans leur écurie. La mansarde était occupée par le cocher Niklaus, un grand gaillard du Pitcherland, sec, nerveux, fort habile à conduire les chevaux, ayant même fait quelques études au séminaire de Marienthal, mais d'un esprit simple et superstitieux, à ce point qu'il portait une petite croix de bronze sous sa chemise et la baisait matin et soir, quoiqu'il eût passé 30 ans. Monsieur Furbach prêta l'oreille. Au bout de quelques secondes, la lucarne se referma, les pas cessèrent, le lit du cocher cria, enfin, tout se tut. « Allons, se dit le vieux libraire, c'est aujourd'hui pleine lune, Niklaus se frappe la poitrine, il gémit sur ses péchés, le pauvre diable. » Et sans s'inquiéter davantage de ces choses, s'étant retourné, bientôt, il se rendormit. Le matin, vers 7 heures, M. Furbach, les pieds dans ses pantoufles, déjeunait tranquillement avant de descendre à son magasin, lorsque 2 petits coups retentirent à sa porte. « Entrez, » dit-il, tout surpris d'une visite si matinale. La porte s'ouvrit et Niklaus parut en blouse grise, coiffé du large feutre montagnard et le gros bâton de cormier au poing, tel qu'il s'était présenté jadis en arrivant de son village. Il était pâle. « Monsieur Furbach, dit-il, je viens vous demander mon congé. Grâce au ciel, je vais enfin être à mon aise et pouvoir aider ma grand-mère Orkel de Vangebourg. Auriez-vous fait un héritage ?» lui demanda le vieux libraire. « Non, monsieur Furbach. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un trésor entre 00h et 01h et je vais mettre la main dessus. » Le brave garçon parlait avec une telle assurance que M. Furbach demeura confondu. « Comment ? Vous avez fait un rêve ?»« Oui, monsieur, j'ai vu le trésor comme je vous vois, au fond d'une cave très basse, dans un vieux château. Il y avait un seigneur couché dessus, les mains jointes, un gros pot de fer sur la tête. Mais où cela, Niklaus ? Ah, je n'en sais rien. Je vais d'abord chercher le château. Je trouverai bien ensuite la cave et les écus. Des pièces d'or plein un cercueil de 6 pieds. Il me semble les voir. Les yeux de Niklaus se prirent à briller d'une façon étrange. « Voyons, mon pauvre Niklaus, voyons !» s'écria Furbach. « Soyons raisonnables, asseyez-vous. Un rêve, c'est bien, c'est très bien. Du temps de Joseph, je ne dis pas. Les rêves signifiaient quelque chose, mais aujourd'hui c'est bien différent. Tout le monde rêve, moi-même, j'ai rêvé 100 fois de trésors, et malheureusement, je n'en ai jamais trouvé. Réfléchissez, vous allez quitter une bonne place. » pour courir après un château qui n'existe peut-être pas. « Je l'ai vu, » dit le cocher, « c'est un grand château qui tombe en ruine. Il y a au-dessus un village, un grand escalier en coquille, une église très vieille. Beaucoup de gens demeurent encore dans ce pays. Une grande rivière passe auprès. » « Bon, tout cela vous l'avez rêvé, je le crois, » dit M. Furbach en haussant les épaules. Puis, au bout d'un instant, voulant ramener cet homme au bon sens par n'importe quel moyen. « Et votre cave, comment était-elle » demanda-t-il. « Elle ressemblait à un four, et vous y êtes descendu sans doute avec une lumière. »« Non, monsieur. Mais alors, comment avez-vous pu voir le cercueil, le chevalier et les pièces d'or ?»« Ils étaient éclairés par un rayon de lune. »« Allons donc. Est-ce que la lune brille dans une cave ?»« Vous voyez bien que votre rêve n'a pas de sens commun. » Niklaus commençait à se fâcher. Cependant, il se contint et dit « Je l'ai vu, le reste ne me regarde pas. »« Quant au chevalier, tenez, le voilà » s'écria-t-il en ouvrant sa blouse. « Le voilà !» En même temps, il tirait de sa poitrine la petite croix de bronze, suspendue par un ruban, et la déposait sur la table d'un air d'extase. Monsieur Furbach, grand amateur de médailles et d'antiquités, fut surpris du travail bizarre et vraiment précieux de cette relique. Il la prit, l'examina et reconnut qu'elle remontait au XIIe siècle. Au lieu de l'effigie du Christ, ça y est en relief, sur la branche du milieu, celle d'un chevalier, les mains jointes dans l'attitude de la prière. Du reste, Niklaus, pendant cet examen, suivait les moindres gestes du libraire avec inquiétude. « C'est fort beau !» reprit M. Furbach. « Je ne serais même pas étonné qu'à force de regarder cette jolie relique, vous n'ayez fini par vous figurer un chevalier étendu sur un trésor. Mais croyez-moi, mon garçon, le véritable trésor qu'il faut chercher est celui de la croix. Le reste ne vaut pas la peine que l'on en parle. » Niklaus ne répondit pas. Seulement, après avoir passé le cordon à son cou, il dit « Je pars. La Sainte Vierge m'éclaire. Quand le Seigneur nous veut du bien, il faut en profiter. Vous m'avez toujours bien traité, Monsieur Furbach, c'est vrai, mais le bon Dieu m'ordonne de partir. Et puis, il est temps que je me marie. J'ai vu là-bas, dans mon rêve, une jeune fille faite exprès pour moi. Et de quel côté allez-vous ? Demanda le libraire qui ne put à la fin s'empêcher de sourire d'une pareille simplicité. « Du côté d'où vient le vent, » répondit Niklaus, « c'est le plus sûr. Vous êtes bien décidé ?»« Oui, monsieur. Très bien, nous allons régler votre compte. »« Je regrette un aussi bon serviteur que vous, mais je me ferai un véritable scrupule de résister à votre vocation. » Ils descendirent au bureau de la librairie, et après vérification faite de ses registres, M. Furbach compta 250 florins d'Autriche à Niklaus, restant de ses gages, y compris les intérêts depuis 6 ans. Après quoi, le digne homme lui souhaita une bonne chance et se pourvut d'un autre cocher. Longtemps, le vieux libraire raconta cette étrange histoire. Il riait beaucoup de la naïveté des gens du Pitcherland, et les recommandait à ses amis et connaissances comme d'excellents serviteurs. Quelques années après, M. Furbach, ayant marié sa fille, Mademoiselle Anna Furbach, au riche libraire Runebeck de Leipzig, il se retira des affaires. Mais il avait tellement contracté l'habitude du travail que malgré ses 70 ans, l'inaction lui devint bientôt insupportable. C'est alors qu'il fit plusieurs voyages en Italie, en France, en Belgique. Vers les premiers jours d'automne 1838, il visitait les bords du Rhin. C'était un petit vieillard à l'œil vif, aux pommettes colorées, à la démarche encore ferme. On le voyait se promener sur le long du bateau, le nez en l'air, la redingote boutonnée, un parapluie sous le bras, le bonnet de soie noire tiré sur les oreilles, causant, s'informant de tout, prenant des notes et consultant volontiers le guide des voyageurs. Un matin, entre Friesenheim et Neubourg, après avoir passé la nuit au salon du Dampfschiff avec 30 autres voyageurs, femmes, enfants, touristes, commerçants, étendus pêle-mêle sur les banquettes, M. Furbach, heureux d'échapper à cette étuve, monta sur le pont au petit jour. Il était environ 4 heures du matin, une brume épaisse couvrait le fleuve, le flot gémissait, la machine clapotait lourdement, quelques lumières lointaines tremblotaient dans le brouillard, et parfois d'immenses rumeurs s'élevaient dans la nuit. La voix du vieux Rhin, dominant le tumulte, racontait l'éternelle légende des générations éteintes, les crimes, les exploits, la grandeur et la chute des antiques margraves, dont les repères commençaient à se dessiner du milieu des ténèbres. Appuyé contre la machine, le vieux libraire regardait défiler ses souvenirs d'un œil rêveur. Le chauffeur, le mécanicien, allaient et venaient autour de lui. Quelques étincelles volaient dans l'air, un fanal se balançait au bout de sa corde, la brise jetait sur l'avant des flots d'écume. D'autres voyageurs se glissaient alors de la soupente comme des ombres. Monsieur Furbach, ayant tourné la tête, aperçut un sombre amas de ruines sur la rive droite du fleuve, des maisonnettes étagées au pied de vastes remparts. Un pont volant balayait la vague écumeuse de sa longue corde traînante. Il s'avança sous le fanal, ouvrit son guide et lut. Vieux Brisac, Brisacum et Brisacus Mons, fondé par Drusus, autrefois la capitale du Brisgau, passait pour l'une des plus fortes villes d'Europe, la clé de l'Allemagne. Bernard V de Zeebrugge en éleva le château fort. Frédéric Barberousse y fit transporter, dans l'église de Saint-Étienne, les reliques de Saint-Gervais et de Saint-Protais. Gustave Horn, suédois, tenta de la prendre en 1633 après avoir remporté de grands avantages sur les impériaux. Il échoua. Brisac fut cédé à la France par le traité de Westphalie. Il fut rendu à la paix de Ryswick en échange de Strasbourg. Les Français le brûlèrent en 1793. Les fortifications en furent démolies en 1814. Ainsi, se dit-il, le vieux Brisac des comtes d'Eerstein, d'Osgau, de Zeebrugge, de Souabe et d'Autriche. Je ne puis laisser cela sans le voir. Quelques instants après, il se faisait descendre avec son bagage dans une barque et le Dampschiff poursuivait sa route vers Bâle. Il n'est peut-être pas, sur les deux rives du Rhin, de site plus étrange que l'antique capitale du Brisgau, avec son château démantelé, ses murailles de 1000 couleurs, en briques, en moellons, en torchis, étalé à 150 mètres au-dessus du fleuve. Ce n'est plus une ville et ce n'est pas encore une ruine. La vieille cité morte est envahie par des centaines de chaumières rustiques qui se pressent alentour, qui grimpent à ses bastions, qui s'accrochent à ses fissures et dont la population hâve, déguenillée, pullule comme des maringouins, des moustiques, les mille insectes à tenailles, à tarières, qui se nichent dans les vieux chênes, les creusent, les dissèquent et les réduisent en poudre. Au-dessus des toits de chaume, étagés contre les remparts, s'ouvre encore la porte du fort avec sa voûte armoiriée, ses herses et son pont-levis suspendus sur l'abîme. De larges brèches laissent couler les décombres autour de la côte. La ronce, la mousse, le lierre joignent leurs efforts destructeurs à celui de l'homme. Tout descend, tout s'en va. Quelques ceps de vigne s'emparent des créneaux. Le pâtre et sa chèvre reposent fièrement sur les corniches. Et chose bizarre, les femmes du village, les jeunes filles, les vieilles commères montrent leur visage naïf parmi les ouvertures pratiquées dans les murailles du château. Chaque cave de l'ancienne forteresse est devenue un logis commode. Il a suffi d'ouvrir des fenêtres et des lucarnes aux remparts. On voit les chemises, les robes rouges et bleues, les guenilles, de tous ces ménages flottaient à la cime des airs, leurs eaux grasses suintaient des goulots dans les fossés. Au-dessus s'élèvent encore quelques solides édifices, des jardins, de grands chênes, la cathédrale Saint-Étienne, tant vénérée de Barberousse. Étendez sur tout cela les teintes grises du crépuscule matinal, déroulez au-dessous, à perte de vue, la nappe bleuâtre du Rhin qui mugit, représentez-vous sur de grandes dalles de la jetée des files de tonnes et de caisses, et vous aurez l'impression que dut éprouver M. Furbach en abordant au rivage. Il aperçut au milieu des ballots un homme, la chemise débraillée, les cheveux plats collés aux tempes, assis au bord d'une petite charrette à bras, la bretelle sur l'épaule. « Monsieur s'arrête à Vieux-Brisac ? Monsieur descend au Schlosskarten ?» lui demanda cet homme d'une voix inquiète. « Oui, mon garçon, vous pouvez charger mes bagages. » Il ne se fit pas répéter l'invitation. Le batelier reçut ses 12 pfennigs et l'on partit pour l'antique castel. À mesure que s'élevait le jour, l'immense ruine se dégageait de l'ombre et ses 1000 détails pittoresques s'accusaient avec une netteté bizarre. Ici, sur cette tour décrépite, autrefois la tourelle des signaux, une nuée de pigeons avait élu domicile. Ils se peignaient tranquillement du bec dans les meurtrières d'où jadis les archers lançaient leurs flèches. Ailleurs, un tisseur en matinale avançait au bout de ses longues perches, ses écheveaux de chanvre, par les lucarnes d'un donjon pour les sécher au grand air. Des vignerons grimpaient la côte, quelques cris de fouine traversaient le silence. Elle ne devait pas manquer dans ses décombres. Elle ne devait pas manquer dans ses décombres. Au bout d'un quart d'heure environ, M. Furbach et son guide atteignirent une large voie en spirale, pavée d'un caillouetage noir et luisant comme du fer, et bordée d'un mur à hauteur d'appui, dont la courbe s'élevait jusqu'à la plateforme. C'était l'ancienne avancée du vieux Brisac. Tout en haut de cette voie, près de la porte de Gontran l'Avare, M. Furbach, se penchant sur le petit mur, vit au-dessous les chaumières innombrables étagées jusqu'au bord du fleuve, leur cour intérieure, leurs escaliers et leurs galeries vermoulues, les toits de bardeaux, de chaumes et de planches, et leurs petites cheminées fumantes. Les ménagères allumaient leur feu sur l'âtre, les enfants en chemise allaient et venaient à l'intérieur des masures, les hommes ciraient leurs bottes, un chat rôdait sur le plus haut pignon, dans une basse cour, à 200 mètres de là, quelques poules grattaient un fumier, et par le toit effondré d'une vieille grange, on voyait une nichée de lapins, la croupe en l'air et la queue en trompette, filer dans l'ombre. Tout cela se découvrait au regard, jusque dans les plus sombres recoins, la vie humaine, les mœurs, les habitudes, les plaisirs et les misères de la famille s'y montraient sans mystère. Et pourtant, M. Furbach, pour la première fois peut-être, trouvait du mystère à ces choses. Un sentiment de crainte indéfinissable se glissa dans son âme. Était-ce la multiplicité des rapports existant entre toutes ces créatures et dont il ne pouvait se rendre compte? Était-ce le sentiment de la cause éternelle présidant au développement de ces existences? Était-ce la morne tristesse de ces vastes remparts, assistant à leur destruction sous l'effort de ce monde infini? Que sais-je? Lui-même n'aurait pu le dire. Mais il lui semblait qu'un autre monde coexistait, en quelque sorte, avec ce monde apparent, que les ombres allaient et venaient, comme autrefois dans leur domaine, tandis qu'au-dessous s'agitait la vie, le mouvement, l'activité de la chair. Il eut peur et se mit à courir vers sa charrette. L'air vif de la plateforme, au sortir du chemin de ronde, dissipa ses impressions étranges. En traversant la terrasse, il vit à sa droite l'antique cathédrale de grès rouge, encore inébranlable sur sa base de granit, comme au temps des croisades. À gauche, quelques modestes maisons bourgeoises assez propres, une jeune fille donnait du mouron à ses oiseaux, un vieux boulanger en veste grise fumait sur le seuil de sa baraque. En face, à l'autre extrémité du plateau, l'hôtel du Schlossgarten détachait sa blanche façade sur le fond verdoyant d'un parc. Là s'arrêtaient les touristes qui vont à Fribourg en Brisgau. C'est un de ces bons hôtels allemands, simple, élégant, confortable, digne enfin d'héberger un mylord en voyage. Monsieur Furbach entra dans le vestibule sonore. Une jolie servante vint le recevoir. Il fit transporter ses effets dans une vieille chambre au premier, où le vieux libraire se lava, changea de chemise, se fit la barbe, après quoi, frais, dispos et de bon appétit, il descendit à la grande salle prendre son café au lait selon sa vieille coutume. Or, il était dans cette salle depuis une demi-heure, une salle haute et spacieuse, tendue d'un papier blanc à bouquet de fleurs, le plancher sablé, les hautes fenêtres à glace étincelantes, ouvertes sur la terrasse. Il venait de terminer son déjeuner et s'apprêtait à faire un tour dans les environs lorsqu'un homme grand, en habit noir, rasé de frais et la serviette sur le bras, le maître d'hôtel enfin, entra, jetant un coup d'œil sur les tables ouvertes de leurs nappes damassées, s'avança gravement vers Monsieur Furbach en le saluant d'un air cérémonieux, le regarda et fit entendre une exclamation de surprise. « Seigneur Dieu, est-ce possible, mon ancien maître ?» Puis, les bras étendus, une voix saisissante. « Monsieur Furbach, vous ne me reconnaissez pas ?» Le vieux libraire, non moins ému, regarda cet homme et au bout d'un instant, dit « C'est Niklaus ?»« Oui, Niklaus !» s'écria le maître d'hôtel. « Oui, c'est moi. Ah, monsieur, si j'osais !» Monsieur Furbach s'était levé. « Allons, ne vous gênez pas, » dit-il en souriant. « Je suis heureux, bien heureux, Niklaus, de vous revoir dans un si bel état. Embrassons-nous, si cela vous fait plaisir. » Et ils s'embrassèrent comme de vieux camarades. Niklaus pleurait. Les servantes étaient accourues. Le brave maître d'hôtel s'élança vers la porte du fond en s'écriant « Ma femme, mes enfants, venez voir, venez !» « Mon ancien maître est là, venez vite !» Et une jeune femme de 30 ans, fraîche, gracieuse et belle, un grand garçon de 8 à 9 ans et un autre plus petit apparurent. « C'est mon maître !» criait Niklaus. « Monsieur Furbach, voici ma femme, voici mes enfants. Ah, si vous pouviez les bénir !» Le vieux libraire n'avait jamais béni personne. Mais il embrassa la jeune femme de bon cœur, et les marmots aussi. Le plus petit s'étant mis à pleurer, croyant qu'il s'agissait de quelque malheur. L'autre, les yeux tout grands ouverts, regardait ébahi. « Ah, monsieur !» disait la jeune femme toute rouge, toute émue, « que de fois mon mari s'est entretenu de vous avec moi, de votre bonté, de tout ce qu'il vous doit. « Oui !» interrompit Niklaus. « 100 fois l'idée m'est venue de vous écrire, monsieur. Mais il y aurait eu tant de choses à vous dire. » Il aurait fallu vous expliquer, enfin il faut me pardonner. Eh, mon cher Niklaus, je vous pardonne de bon cœur, fit le brave homme. Croyez que je suis heureux de votre fortune, quoique je ne me l'explique pas. Vous saurez tout, dit alors le maître d'hôtel. Ce soir, demain, je vous raconterai. C'est le Seigneur qui m'a protégé, c'est à lui que je dois tout. C'est presque un miracle, n'est-ce pas, Fridoline? La jeune femme inclina la tête. Allons, allons. « Tout est pour le mieux, » dit Monsieur Furbach en se rasseyant. « Vous me permettez de passer 1 ou 2 jours à votre hôtel pour renouveler connaissance. »« Ah, monsieur, vous êtes ici chez vous ?» s'écria Niklaus. « Je vous accompagnerai jusqu'à Fribourg. Je vous ferai voir toutes les curiosités du pays. Je veux vous conduire moi-même. » L'empressement de tous ces braves gens ne peut se rendre. Monsieur Furbach en était touché jusqu'aux larmes. Durant ce jour et le suivant, Niklaus, lui fit les honneurs de vieux Brisac et des environs. Bon gré mal gré, il conduisit le brave homme du haut de son siège, et comme Niclos était le plus riche propriétaire de la contrée, comme il possédait les plus belles vignes, les plus gras pâturages du pays, et qu'il avait de l'argent placé partout, qu'on juge de l'étonnement de Brisac en le voyant conduire de la sorte un étranger. Monsieur Furbac passa pour quelque prince voyageant incognito. Quant au service de l'hôtel, quant à la bonne chère, au vin et aux autres accessoires de ce genre, je n'en dis rien. C'était splendide. Le vieux libraire dut s'avouer qu'il n'avait jamais été traité plus grandement, et ce n'est pas sans impatience qu'il attendait l'explication du miracle, comme disait Niclos. Le rêve de son ancien domestique, depuis longtemps oublié, lui revint alors à la mémoire, et lui sembla la seule explication possible d'une fortune si rapide. Enfin, le troisième jour, vers 9 heures du soir, après le souper, l'ancien maître et son cocher, se trouvant seuls, en face de quelques vieilles bouteilles de Rudesheim, se regardèrent longtemps l'un l'autre d'un œil attendri. Niclos allait commencer ses confidences lorsqu'un domestique entra pour desservir. « Allez vous coucher, Casper, dit-il. Vous enlèverez tout cela demain. Fermez seulement la porte de l'hôtel, tirez les verrous. » Et quand le domestique fut sorti, Niclos se levant, ouvrit une fenêtre qui donnait sur la cour pour renouveler l'air, puis, venant se rasseoir gravement, il débuta en ces termes. Fin de la première partie.